Elle respire au rythme de l'océan. Inspire. Les vagues se brisent contre les rochers, écument à l'entrée de la grotte. Glacial sur ses orteils, sur ses cuisses tremblantes. Expire. La marée se retire, aspirée vers le large, et dépose des offrandes dans son sillage. Une liane d'algues luisantes, des éclats de coquillages dont la nacre rappelle les eaux. Elle serre les dents, mais la douleur la déchire de part en part. Réalité éblouissante et bouleversante. Son expiration suivante est un hurlement. Une autre contraction. Les flots rugissants engloutissent son cri. Elle sait qu'elle est en sécurité dans la grotte obscure, avec sa roche mouillée, dont goûte régulièrement du sel. Toutefois, l'océan a faim, et il faut le nourrir. Elle glisse une main frémissante entre ses jambes, sans le crâne du bébé, coiffé de liquide sanguinolent. Maintenant. Elle soulève le bas de sa robe, qu'elle fourre dans sa bouche pour mordre le tissu de toutes ses forces, tandis que son corps se recroqueville. Une poussée supplémentaire et elle vagit. Son corps se fend en deux jusqu'à se retrouver vide, épuisé. L'enfant est dans ses bras. Elle effleure les minuscules mains étoiles de mer, les paupières mi-closes, les lèvres roses nacrées. Elle s'autorise ce petit moment, précieux. Puis elle se relève, en chancelant, alors que le bébé miaule contre son sein. Au pied de la grotte qu'elle a choisie, l'océan bouillonne sur les rochers. Il attend. C'est le cri qui la réveille. La chambre a l'odeur musquée du sommeil. Elle perçoit les palpitations rapides d'un pouls, les muscles longilignes d'un cou. Des ongles lui griffent les mains. La lumière grise de l'aube s'immisce entre les lattes des stores et lui permet de voir qu'elle chevauche Ben, les yeux déformés par la peur. Un vaisseau sanguin a éclaté dans le blanc de son œil gauche, laissant une étoile rouge. Elle s'écarte et se lève sur des jambes vacillantes. « Lucie !» balbutie-t-il, une main plaquée sur son cou. « Qu'est-ce que... » Ses mots sont étouffés, sa voix s'étrangle. S'étrangle. Elle avait les mains autour de son cou et il avait les yeux exorbités. Elle l'a étranglé. Il s'assied dans le lit, allume une lampe. Elle détale aussitôt, animal effrayé. Il y a un mouvement dehors, dans le couloir. On frappe à la porte. Ben, frérot, ça va? J'ai cru entendre... Elle se déplace lentement, comme dans de l'eau. Son pouls lui martèle la gorge. Les coups s'intensifient. Ben tousse à présent. Appelle à l'aide. La porte se presse contre son dos. Elle saisit la poignée de ses doigts moites, s'en sert d'appui le temps de s'arrimer au sol. La porte n'est pas verrouillée. Le peine défectueux cliquette dans la serrure. Elle ouvre en grand, bouscule Nick, un copain de Ben, et parcourt le couloir en courant avant de monter la volée de marche jusqu'à sa propre chambre. Une fois à l'intérieur, elle s'adosse à la porte. Sa respiration est précipitée, elle se débat avec ce qui vient d'arriver. Sa chambre est comme toujours impeccable, les livres bien rangés en piles régulières sur son bureau et sur sa table de chevet. Mais son lit est défait et il y a une odeur de renfermé. Ses draps sont humides, on les dirait imprégnés de sa transpiration. Elle tente de faire remonter à la surface de sa mémoire les événements de la veille au soir. Elle n'était pas d'humeur à manger au resto U et avait sauté le dîner, apaisant son estomac fébrile avec une infusion de gingembre dans sa tasse préférée, rapportée de chez elle. Puis elle avait mis un podcast et s'était couchée. Elle voulait dormir de bonne heure et espérait réussir à se changer suffisamment les idées pour oublier Ben et ce qu'il lui avait fait. Il y a eu un rêve. Elle s'en rappelle à présent. De l'eau froide qui venait lui lécher la peau. Des cailloux qui s'enfonçaient dans la plante de ses pieds. Le contact dur de la roche contre son crâne. Et sur son visage, l'haleine brûlante d'un homme qui l'immobilisait et enfonçait ses doigts dans sa chair. La peur qu'elle éprouvait bataillait avec le besoin désespéré de résister, de survivre. Puis elle s'est réveillée à califourchon sur le torse de Ben, les mains serrées autour de son cou. L'horreur qui se diffuse en elle engourdit le bout de ses doigts, de ses lèvres. elle a fait une crise de somnambulisme. Ça ne lui était encore jamais arrivé, pas une seule fois de sa vie. Elle regarde ses mains qui tremblent. A-t-elle voulu blesser Ben ? Le tuer même, peut-être, pour le punir ? Ou faut-il imputer son geste à son rêve, dont elle continue à sentir la présence, comme un mauvais goût persistant, cette morsure de la peur, cet instinct primaire d'un combat pour la survie ? Elle a l'impression qu'une partie de son cerveau l'a conduite à l'étage du dessous, telle une marionnette. Un coup d'œil paniqué en direction de la fenêtre lui apprend que le soleil est en train de se lever, car le ciel rosit déjà. Elle aperçoit, dans la cour, une forme sombre en mouvement. Elle identifie un uniforme avec une inscription fluorescente. Un agent de sécurité du campus. Ben, ou son ami Nick, ont dû donner l'alerte après le départ de Lucie. Elle imagine ce qu'il va raconter. « Je me suis réveillée et elle avait les mains autour de mon cou. Elle voulait me tuer. » Ses pensées tourbillonnent. Elle essaie de contrôler sa respiration, en vain. La panique enfle, encore et encore, un bouillonnement terrible dans ses veines. Il va y avoir une enquête, elle en a la certitude. Elle sera renvoyée, peut-être même définitivement. Mon Dieu, l'université pourrait-elle s'en remettre à la police ? Et Lucie risque-t-elle d'être arrêtée et mise en examen pour agression ? Tout ce à quoi elle aspire et pourquoi elle a travaillé si dur, réduit à néant. Elle imagine Ben, les bleus fleurissant sur son cou, les croissants de lune qu'elle aura laissés dans le derme avec ses ongles. Elle est responsable. Même si elle ne s'en souvient pas, même si elle n'était pas consciente. Qui la croira, surtout après ce qui s'est passé ? D'autant qu'ils ont déjà choisi leur camp en prenant la défense de Ben. Elle a les aisselles trempées de sueur, la nécessité de fuir monte en elle. Mais pour aller où ? Elle ne peut pas rentrer chez ses parents. Cela impliquerait de leur expliquer qu'elle, Lucie, leur gentille fille, a agressé quelqu'un. Pire, cela impliquerait de leur expliquer pourquoi, de leur raconter ce que Ben a fait. Non, impossible. Qui, dans ce cas ? Qui l'aidera ? Qui l'accueillera le temps qu'elle trouve une solution pour arranger les choses ? Soudain, la réponse lui apparaît comme une évidence. Elle se change rapidement, furette dans le placard à la recherche d'un petit sac de voyage. Sous-vêtements, vêtements, lingettes nettoyantes, crème, ordinateur, chargeur d'ordinateur, carnet. Elle rassemble le tout de ses mains tremblantes. Elle ouvre le tiroir de son bureau pour en sortir une vieille carte postale abîmée, effleure l'adresse griffonnée au verso. Maison de la Falaise, 1 Maloua Street, Camber Bay. C'est le seul endroit où elle puisse aller, auprès de la seule personne susceptible de comprendre. La route s'étend indéfiniment et se confond avec l'horizon. Autour de Lucie, rien d'autre que des broussailles dorées désertes, sur des kilomètres et des kilomètres. Des cacatoès coreillas rose foncé, l'oiseau préféré de sa mère, s'envole d'un arbre desséché sur son passage. Il n'y a pas d'autre voiture. Elle est seule. Elle tend la main vers le siège passager pour attraper son iPhone et le coince entre ses cuisses. Elle va appeler sa sœur. Après plusieurs sonneries, Lucie retient son souffle entre chacune d'elles. Elle entend un cliquetis. « Jess ?» demande-t-elle, alors que l'espoir lui fait l'effet d'une boule de bardane dans sa gorge. La voix enregistrée de sa sœur surgit alors, joyeuse et lapidaire.
« Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Jess Martin. Je ne peux pas vous répondre pour le moment. »
« Merde !» lâche Lucie en raccrochant. Les larmes lui montent aux yeux et brouillent le paysage. Elle se dit que tout ira bien, que Jess finira par répondre, qu'elle saura comment l'aider. Non ?